nous avons eues depuis le départ. Hein. On a évoqué les deux grandes architectures antiques occidentales, l'architecture grecque et l'architecture romaine. Ensuite, nous avons remonté le temps à travers le Moyen-Âge et en gros la période 16, 17, 18e siècle. Aujourd'hui, ben, on va s'intéresser à la fin de cette chronologie-là. On va, j'allais dire, ponctuer le 18e siècle et puis ensuite travailler sur le 19e. Hein. Alors, le 19e est le début du 20e. Je ne vous repasse pas, ou je ne commande pas du moins, nos petites règles. Je voudrais qu'on entame directement avec le premier petit chapitre de cette série. Et je voudrais vous montrer ceci. Qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, avant de me dire ce que vous voyez, l'image que vous voyez, physiquement, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette chose, cette œuvre que vous avez sous les yeux? Pardon? Oui, mais avant de voir ce que ça représente, qu'est-ce que c'est comme type d'objet qui est ici représenté? Pardon? Alors, comme type d'objet, c'est quoi? C'est une sculpture, une peinture? C'est, vous savez, nous avons nos petites méthodes. Hein. Est-ce qu'il s'agit de, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Une photo? Alors, c'est un dessin. Hein. Ce que vous avez là, effectivement, c'est un dessin. Vous savez que c'est important, quand on voit une œuvre, de souvent se demander de quel matériau il s'agit, quel type d'œuvre c'est. Donc, ce que vous avez là, c'est un dessin. Alors, le dessin que vous avez là, qui est un dessin à l'encre sur papier, est un dessin qui, donc, représente quoi? Voilà, une bibliothèque. Ce que vous avez là, effectivement, c'est une bibliothèque. Hein. Vous remarquez peut-être hein, qu'il y a des tas d'étagères, et sur les étagères, il y a des livres. Donc, ce que vous avez là, c'est une bibliothèque. Hein. Quoi, cette bibliothèque? Une utopie, c'est-à-dire un rêve de bibliothèque Guerfou, c'est-à-dire une reconstitution
de la bibliothèque d'Alexandrie.
La bibliothèque d'Alexandrie. Ouais.
Parce qu'on dirait qu'ils sont en costume.
Oui, on a un peu l'impression que les personnages sont plus ou moins en costume antiquisant, une sorte de toge. Donc, d'après ce que je vous entends dire, il y a un peu deux options hein, qui sont adoptées par vous. La première, il s'agirait d'une utopie, c'est-à-dire d'une sorte d'idée de bibliothèque, de projet, mais de projet impossible. Hein. Le projet de quelques bibliothécaires un peu fous, mais qui imaginerait une espèce de bibliothèque idéale. Hein. Ou bien la reconstitution d'une bibliothèque qui aurait existé, peut-être la reconstitution de la bibliothèque d'Alexandrie, puisqu'on a un peu l'impression que les personnages qui sont en premier plan sont des personnages antiques. Vous penchez plutôt vers quelle solution? Une utopie? L'idée folle de quelques cinglés de livres? Ou au contraire, la reconstitution d'une bibliothèque antique qui aurait existé? Plutôt une reconstitution?
Un peu imaginaire quand même.
Ouais. Une reconstitution un peu imaginaire. Pardon?
D'aujourd'hui ne ressemble pas à ça.
Pas précisément, non. D'ailleurs, peut-être heureusement, parce que c'est un peu, ce sera un petit peu compliqué, je crois. Hein. Après tout, c'est peut-être un peu les deux.
Reconstruction imaginaire.
Alors, à vrai dire, vous avez une idée de qui est l'auteur de ce dessin? Pardon? Ça pourrait être Ledoux. Ledoux, qu'est-ce que ça vous dit, Ledoux?
Les
scènes d'Arc de Senan. Et par rapport à la semaine dernière, je vous dis quoi? Alors, on a parlé effectivement des portes. Hein, vous vous rappelez des portes du mur en Paris, qui rend Paris murmurant. Hein, vous connaissez cette expression. Hein. Vous savez qu'il y avait autour de Paris les barrières d'octroi, qui étaient évidemment très mal vues. Hein, et ce mur qui murait Paris rendait Paris murmurant. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas très d'accord pour payer des octrois. Bien. Et vous vous rappelez, on en a parlé la dernière fois. Je vous ai même montré quoi de Ledoux la semaine dernière?
La porte de la Villette.
La rotonde de la porte de la Villette. Hein. Et on a vu effectivement Ledoux, l'auteur aussi des Salines d'Arclay-Senan, réaliser effectivement ses octrois. Il reste celui de la Villette en particulier. Donc là, on pourrait avoir quelque chose, effectivement, de ce Claude-Nicolas Ledoux. Je vous ai montré autre chose, d'ailleurs, de Ledoux.
Il n'a pas travaillé aussi pour des trucs utopiques.
Il a travaillé aussi pour des choses utopiques, absolument, Nicolas Ledoux, hein, absolument. Hein, tout à fait. D'ailleurs, Arquesnon n'est pas utopique, parce que ça existe, hein, mais effectivement, il y a quand même une, il y a à l'intérieur d'Arquesnon, dans le petit musée qui est installé là, les maquettes de quantité de lieux utopiques qu'il a imaginés. Hein. Mais je vous ai montré autre chose de Ledoux la semaine dernière. Un château. Voilà, hein, vous savez, c'est un château assez cubique.
Oui, carré, hein, et puis avec
voilà, avec des colonnes. Sur la façade, hein, voilà. Alors, effectivement, ce que vous avez là, c'est une œuvre utopiste. Hein, c'est-à-dire, c'est l'œuvre, une œuvre, un projet utopiste qui représente une bibliothèque, mais une bibliothèque un peu folle, telle qu'on peut la rêver. À quel moment d'ailleurs ce dessin date de quand, à votre avis ?
Fin 18e.
Fin 18e, hein, tel qu'on peut en rêver à la fin du 18e, mais dont on imagine peut-être qu'il ne se fera jamais. Encore que là, il s'agit quand même d'un projet, même si c'est un projet utopiste, pour la bibliothèque du roi. Hein. Donc c'est quand même, j'allais dire, il y a une dimension de, j'allais dire, de vérité possible dans un projet tel que celui-ci, qui effectivement s'inspire un peu de la manière qu'on a de fantasmer certaines bibliothèques anciennes, notamment la bibliothèque d'Alexandrie. C'est plus un projet utopiste que la reconstitution d'œuvres, mais cette dimension de reconstitution d'une bibliothèque antique, et vous avez bien remarqué les personnages antiquisants au premier plan, n'est pas fausse non plus. C'est-à-dire que ces architectes utopistes, hein, ils pensent aussi aux merveilles, aux splendeurs immenses de l'Antiquité. Si vous voulez, hein. Et ils essaient quelque part de retrouver cette Antiquité parfaite, dans cette époque néoclassique où justement on veut retrouver l'Antiquité. Simplement, l'auteur de ça, il ne s'appelle pas Ledoux. Ce n'est pas Ledoux qui a fait ça. C'est un autre architecte utopiste. Plus utopiste encore que Ledoux. Tellement utopiste d'ailleurs que sa production est aujourd'hui connue essentiellement par ses productions utopistes, justement. Non pas qu'il n'ait jamais rien construit, mais la plupart des constructions qu'il a réalisées ont été détruites. Donc il ne reste quasiment plus rien. Sinon, c'est des dessins utopistes. Vous avez une idée de ce personnage ? Non ? Il s'appelle Boulet. Ah, oui. Boulet, pas Boule, hein. Boulet.
Oui, oui. Ah, est-ce qu'il n'a pas fait un truc en coupole ? Mais...
Boulet, il a fait ça, qui est donc ce projet pour la bibliothèque royale. Donc c'est bien quand même un projet, hein. Encore une fois, un projet utopiste, un peu trop beau pour être honnête, si j'ose dire, mais c'est quand même un projet. Inspiré, encore une fois, des modèles antiques. Mais Boulet, effectivement, il a fait d'autres choses. Il a fait, par exemple, ça.
Voilà.
Hein, vous connaissez ça, hein ?
Oui.
Ça, c'est une chose tout à fait extraordinaire. C'est un projet de cénotaphe, c'est-à-dire de monument commémoratif, en l'honneur d'Isaac Newton, hein, le grand inventeur que vous savez. Eh bien, Boulet a envisagé de réaliser cette sorte de monument commémoratif. Là aussi, qu'est-ce que vous pourriez en dire par rapport à ce qu'on a pu voir par ailleurs ? Ça sert à... Alors, c'est un monument qui sert à... Puisque c'est un cénotaphe, c'est pas... Qu'est-ce que c'est qu'un cénotaphe, rappelez-moi ?
Un tombeau vide.
Un tombeau vide, c'est-à-dire ?
Il n'y a rien dedans.
Il n'y a rien dedans. Donc, finalement, ce n'est pas un tombeau.
Comme un mausolée.
Si,
voilà, alors, un mausolée, ça contient les restes de quelqu'un. Hein. D'ailleurs, le mot mausolée vient de quoi ? Vous savez ça ?
Mausole.
Du roi Mausole. Hein. Vous savez que le roi Mausole, c'est construit un mausolée, lequel ?
Celui
d'Halicarnasse. Hein. Je rappelle que le roi Mausole, au 4e siècle avant Jésus-Christ, se fait construire en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie, un mausolée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle les mausolées mausolées, parce que c'est le roi Mausole qui s'est fait construire son mausolée, c'est-à-dire son tombeau, si vous voulez. Hein. Et ce mausolée d'Halicarnasse, d'ailleurs, il était très connu pour quelle raison ? C'est une des sept merveilles du monde. Hein. Le mausolée d'Halicarnasse, c'est comme les pyramides d'Égypte, le jardin du monde du Babylone, le colosse de Rhodes, une des sept merveilles du monde. Un mausolée, donc, ça contient les restes de la personne. Hein. Dans le mausolée du roi Mausole, il y avait les restes de Mausole. Un cénotaphe, non. Hein. Un cénotaphe, c'est un monument qui, j'allais dire, est un monument funéraire, mais qui ne contient pas les restes du défunt. C'est un monument qui est un hommage, si vous voulez, hein, mais quand même funéraire, qui est fait à l'occasion, si vous voulez, ou en mémoire de la mort et donc de l'existence d'une personnalité. Justement, ce cénotaphe, donc qui est un monument funéraire, même s'il ne contient pas de reste
d'un personnage, en l'occurrence Newton, qu'est-ce qu'il vous rappelle en termes de forme? Qu'est-ce qu'il vous dit?
Un peu celui de
D'Adrien. Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans la deuxième séance? Vous vous rappelez du mausolée d'Adrien? C'est quoi le mausolée d'Adrien aujourd'hui? C'est le château Saint-Ange. Vous vous rappelez, on en a parlé à la deuxième séance, hein, vous vous rappelez du château Saint-Ange? Le château Saint-Ange, c'est, non pas dire le mausolée, mais le tombeau d'Adrien. Eh bien, là, Boulet se réfère à ça. Il se réfère au tombeau d'Adrien, mais il se réfère à autre chose, aussi, que l'on a vu. Pardon? Toujours à la deuxième séance. Un autre tombeau. Pardon. Alors, on avait vu le tombeau de Cecilia Metella sur la Via Appia, vous avez raison. Hein. Un tombeau circulaire, une sorte de tour. Hein. Mais il y a un autre tombeau encore plus prestigieux, dont ce tombeau-là est en quelque sorte l'écho. Revu et corrigé. Hein. C'est le tombeau d'Auguste. Vous ne rappelez pas du tombeau d'Auguste, hein, qui était un peu comme le tombeau d'Adrien. Hein. C'est-à-dire un grand mausolée, hein, énorme, hein, mais circulaire, avec d'ailleurs des arbres qui étaient plantés. Hein. Je vous ai même montré la maquette reconstitutive. Donc on a là, chez Boulet, la volonté de reprendre, de se référer à l'architecture antique, en l'occurrence l'architecture romaine. Hein. C'est comme dans la bibliothèque que vous avez vue avant, on se réfère à l'Antiquité, et on propose quelque chose du devis. Ce cénotaphe à Isaac Newton n'a jamais été réalisé. À l'intérieur, je vous montre la coupe intérieure, hein, telle que Boulet l'avait imaginée. Voilà, ça c'est la coupe du projet. Hein. Voilà ce que Boulet projetait de mettre à l'intérieur de ce cénotaphe à Isaac Newton.
Il est en béton.
Pardon. La base du mausolée était prévue, alors ça se voit un peu là, pour être de la pierre, hein, un appareil, hein, mais la voûte, effectivement, vraisemblablement en béton, en référence à quoi d'ailleurs?
Au Panthéon
à Rome, vous rappelez du Panthéon qu'on a vu l'autre jour, hein, qui a justement une voûte en béton avec des caissons en béton, on l'a vu l'autre jour. Hein. Donc effectivement, on a là quelque chose qui vraiment se réfère à l'architecture romaine, au mausolée d'Auguste et d'Adrien, et au Panthéon avec cette voûte en béton. Là, une double voûte, hein, pour faire une véritable sphère, hein, et monumentale, vous voyez l'échelle des personnages. Hein. Il voit grand, vous voyez, hein, tellement grand que ça n'a jamais été fait, évidemment. Hein. D'accord? Voilà, alors ça date, vous le voyez, de la fin du XVIIIe siècle. Et c'est important. Pourquoi c'est important, ces architectes utopistes? Quel est leur intérêt par rapport à ce qui va se passer après?
Ça inspire des idées.
Ouais, alors c'est très révolutionnaire, effectivement. Hein, c'est quelque chose de très novateur, même si ça prend en compte les architectures anciennes. Hein. Ça la prend en compte, on vient de le voir, hein, c'est pétri d'architecture antique. Hein. Vous ne comprenez pas ça si vous ne savez pas ce que c'est que l'architecture romaine. Hein, parce que vous ne pouvez pas savoir que c'est le château Saint-Ange, que c'est le Panthéon repris et corrigé. Hein. Donc c'est pétri d'architecture antique. Hein, voilà. Et en même temps, effectivement, ça annonce la suite des événements. Hein. D'accord. Donc évidemment, cette architecture des Lumières, cette architecture utopiste, elle est très importante parce qu'elle montre aussi, comment dire, elle montre aussi les possibles. Quand vous faites ça, vous pouvez, j'allais dire, tout imaginer. Finalement, l'architecture moderne, elle vient de ça. Elle vient de ces gens utopistes qui se sont tout permis, même des choses impossibles. À partir de là, on peut tout faire. On peut faire des gratte-ciel de 50 mètres de haut. Quand vous imaginez ça, regardez tous les personnages là. Ben, vous pouvez faire des immeubles considérables. C'est possible, ce que vous y avez pensé. Vous y avez réfléchi, donc autant le faire. Les utopistes, si vous voulez, avec les Lumières, ils vont rendre l'utopie possible. Donc, avec les utopistes, on entre dans la modernité. D'accord? Alors, la modernité, on va y aller maintenant. Je vous propose une petite visite de Paris. Hein? Paris, vous connaissez tous Paris. Hein? Hein? À Paris, il va y avoir, et ça vous le savez tous, au XIXe siècle, sur le plan de l'architecture et de l'urbanisme, un événement considérable. Haussmann, hein, Baron Haussmann, vous connaissez tout ça, qui va évidemment totalement transformer cette ville. Cela dit, avant lui, il s'est passé pas mal de choses aussi, et ça a continué après. Hein. Haussmann, c'est effectivement un moment décisif de modification du faciès de la ville de Paris, mais avant Quelqu'un comme Napoléon Ier n'a pas attendu Haussmann pour commencer, hein, et après lui, ça va se poursuivre. Donc le 19e siècle à Paris, c'est capital. Il y a plein de monuments du 19e siècle très importants à Paris. Hein, et on les connaît tous, puisqu'on passe devant tout le temps. Je ne suis pas sûr qu'on les regarde si bien, d'ailleurs, sauf ce soir, où on va les regarder, justement. Hein. Mais puisque vous les connaissez tous, vous allez tous les reconnaître. Alors, on va justement commencer par regarder 14 monuments. Pas des masses, hein. 14 monuments, certains très connus, d'autres peut-être un peu moins, mais que j'ai choisis parce qu'ils me paraissent particulièrement intéressants pour caractériser l'architecture du 19e siècle. Et donc, on va les regarder déjà une première fois pour essayer de les identifier, de savoir à quoi ils servaient aussi, hein, et à quoi éventuellement ils servent encore aujourd'hui. Peut-être un peu les dater, voir à quel moment du 19e ils se situent. Hein. Puis après, on les re-regardera d'un petit peu plus près. Alors, on commence. Celui-ci. What it is. What is it, plus exactement. C'est une église, effectivement. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Pardon. La Madeleine, Saint-Augustin. 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 Saint-Germain-des-Prés.
Non.
Saint-Augustin. Madeleine pour les uns, Saint-Augustin.
Non,
pas la Madeleine.
Pas la Madeleine. Pas la Madeleine. Donc Saint-Augustin. Bon, en tout cas, une église. Et plutôt ça, est-ce que tout le monde est OK avec Saint-Augustin ou est-ce qu'il y a des voix dissidentes? Non. Ça date de quand, ça? Fin 19e? Fin du 19e? Ouais.
Oui, deuxième moitié, peut-être.
Deuxième moitié?
Oui, mais peut-être, avec la coupole, c'est ennuyeux.
D'accord. Donc, deuxième moitié, 19e, Saint-Augustin. Dernier prix.
Ok.
Ah, pas tout de suite. Après.
Non, c'est la bourse.
Alors. La bourse du commerce. La bourse du commerce. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, la bourse du commerce, un bâtiment que vous dateriez de quand? Donc, 19e, ça c'est sûr, hein,
oui, mais, alors...
mais plutôt début, milieu, fin?
Début.
Ah, là est la question, justement. C'est bien ce sur quoi on travaille. Donc, la bourse du commerce qui serait un bâtiment du début
non, milieu.
Les toitures sont d'origine ou pas?
Les toitures sont d'origine. Alors, elles ont sans doute été revues, refaites, hein, mais la volumétrie, oui.
Et le matériau?
Je pense que c'était du métal et qu'il y avait des verrières, effectivement. Hein. Alors, il y a peut-être eu des petits changements, vous voyez, des verrières plus importantes, mais vous aviez une organisation, une volumétrie quasi équivalente à ce que vous voyez. Hein. Donc, la bourse du commerce, hein, et un bâtiment plutôt du début du 19e siècle. OK ? Dernier prix, au suivant.
Baltar.
Oui.
C'était dans la ville, là, ça
paraît à l'extérieur. Mais il y en a un pavillon qui était transplanté.
Oui, exactement. Oui. C'est celui-là.
Donc oui. Ce serait le pavillon de Baltar transporté à Nogent-sur-Marne.
Oui.
Donc il vient de d'où?
Des Halles.
Hein, des Halles centrales. Hein, des Halles du quartier des Halles. OK. Dernier prix, là aussi.
La
Madeleine.
Oui. Si, c'est la Madeleine.
Magdalena. Donc, la Madeleine. Et c'est quoi la Madeleine?
Une église.
Une église. Ok. Et ça date de quand? C'est pas l'entrée principale?
Ah non. Enfin, ça dépend.
C'est pas l'entrée principale? Et ça date de quand, alors, cette église de la Madeleine? Pardon? Premier Empire, donc début du 19e.
Hein?
Non, plus tard.
Donc, une église, l'église de la Madeleine, qui date du début du 19e. Mmh. D'accord? Très bien.
L'opéra
Garnier. Là, je savais qu'il n'y aurait pas trop de problèmes.
L'opéra Garnier.
L'opéra Garnier, qui est l'œuvre de... Garnier. Et qui date... Napoléon. Parfait. Et l'opéra, bah, il sert... L'opéra. Là, ça va.
C'est la gare d'Orsay,
où il y a maintenant le musée du même nom. Quelle époque? Deuxième moitié du 19e?
Oui.
Plutôt deuxième moitié du 19e.
C'est le Trocadéro,
non? C'est le Trocadéro. Bah, moi, quand je vois le Trocadéro, je vois pas ça.
Non, mais ça a été démoli.
Ça a été démoli. Hein? Quand?
L'exposition universelle.
Absolument. Ça a été démoli pour l'exposition universelle. Donc, c'est l'ancien, pourrait-on dire, palais du Trocadéro. Quelle époque, cet ancien palais du Trocadéro? Ils ont bien fait de l'enlever. C'est pas gentil pour l'architecte. Hein. Mais on peut partager votre opinion. Pas très ouvert. Hein. L'époque...
De la Tour Eiffel?
Ah non, avant. Non. On l'a démolie.
On l'a démolie pour construire la Tour Eiffel.
Enfin, l'époque.
Enfin, l'année, quoi.
Donc...
Ok. Donc, il date très d'avant.
Avant 1889.
Avant 1889. Ok. Signature. Tenez, petite signature.
Oui.
Saint-Germain-des-Prés. Non.
Merci.
Pas Saint-Germain, si. Si. Saint-Eustache. Saint-Eustache. Non. Saint-Germain. Saint-Germain. Ça vous va, ça? Quelle époque, Saint-Germain-des-Prés? C'est pas ça? Ah non. Ah non. Non. Alors c'est quoi?
Du néo-gothique.
À votre avis? Pardon? Ah, Saint-Germain-l'Auxerrois, derrière le Louvre.
Oui, mais est-ce que vous n'avez présenté que du 19e?
Que du 19e.
Non.
Donc
c'est pas Saint-Germain des Prés. Okay. Bon, donc là, on flotte un peu, là. Hein. Et on est quand, là?
Milieu.
Le bien avec le milieu, c'est que c'est proche du début. Non, bon, on verra ce qu'il en est. Pas compliqué, hein. Et ça, c'est déconstruit quand?
Début.
On est dans ta bête. Hein? Donc, début du 19e, là aussi.
Toujours cette colonnade.
Du Nord.
Une gare.
Du Nord.
La gare du Nord. C'est marqué Nord. Pas compliqué, c'est facile aujourd'hui. C'est la dernière séance, je me suis dit, il faut quand même pas. Voilà. Ah oui, oui, la Madeleine, franchement. Oui, 11h, même l'heure, là, l'expertise devient précise. Hein. Donc, la gare du Nord. Le cirque d'hiver.
C'est marqué,
le cirque d'hiver. Il suffit de lire, effectivement. Le cirque d'hiver. Hein? C'est ça quelque chose, effectivement. Ah, ou sainte. Non. Puis c'est pas marqué dessus, c'est pas du jeu, hein. Jusqu'à maintenant, je vous avais préparé des photos avec marqué Nord, Sainte-Madeleine, Tirguer. C'est chouette. Là, c'est rude. Hein. Bon, alors si on ne sait pas trop ce que c'est, est-ce qu'on sait de quand ça date?
Toujours
ces frontons. Toujours ces frontons. Bon, donc là, j'ai l'impression que c'est flottant, comme
peut-être, notre affaire de tout à l'heure. Ça peut être la fin du Premier Empire.
Fin du Premier Empire. Donc on serait vers 1815,
1820,
peu ou prou. Oui. OK. Laquelle mairie? Parce qu'il y en a des mairies. Hein. Enfin, il y a la mairie, enfin l'hôtel de ville. Et puis il y a des mairies à Paris plein. À l'arrière de l'hôtel de ville, l'arrière de l'hôtel de ville, la façade arrière, quoi.
Oh, je crois pas.
L'arrière, oui, il y a des expos entre par là, hein, de juste devant Saint-Gervais, Saint-Protais, hein. Non, oui, donc l'arrière de l'hôtel de ville, c'est un bâtiment public, en tout cas. Hein, ce côté-là, ça va. Hein. Mais c'est pas marqué dessus, alors zut. Pas de chance.
Et tout ça.
Ah oui. Saint quelque chose. Là. On a pas mal de saints et saintes quelque chose, hein. À part Sainte Madeleine. Hein? Et là, vous mettez ça quand? À un temple. Un temple, un peu comme le Sacré-Cœur.
La même époque.
Même époque. Donc plutôt fin 19e, alors peut-être.
Non.
Bon. Non, pas... Les églises, c'est compliqué. Hein. Hein, compliqué, les églises. Hein.
Il y en a énormément.
Et c'est pas ce qu'on regarde le plus. Sauf aujourd'hui. Bien. Alors, ces photos que je vous ai montrées montrent un certain nombre de monuments parisiens du 19e siècle, assez représentatifs d'évolution de l'architecture à Paris au 19e siècle. Si vous aviez à classer ces monuments par fonction, quel type de fonction ils incarnent?
Religieuse,
civile. Quand vous dites civile.
Les gares. Le commerce.
Ouais. Donc, vous mettriez une série de monuments dont la fonction serait commerciale, financière, économique, pourrait-on dire.
Un peu tout.
Technique, gare.
Des jeux.
Ouais. Alors, voilà. Donc, des édifices de spectacle.
Entre l'opéra et puis
l'opéra, cirque d'hiver, par exemple. Hein. Ouais.
Il y a deux types.
Religieux et profanes, et dont les profanes, donc des monuments plus techniques et économiques, nous dirions, hein, pardon, des monuments culturels, et puis il y a quand même un certain nombre d'autres monuments qui ont une autre fonction. Voilà. Oui, une fonction que je qualifierais de, voilà, républicaine, hein, une fonction... Alors, bah, on va peut-être commencer d'ailleurs par... certains de ces monuments, celui-là, vous l'avez reconnu, hein. D'ailleurs, ça doit être marqué dessus, là aussi, non ?
Oui,
voilà. Hein, c'est pas bon. Voilà, l'Assemblée nationale. Donc, ça date de quand, ça ? Début 19e ? Néoclassique ?
Oui.
Quelle est la référence à ce type d'architecture ?
Grec.
Grec, hein. Grec.
Gréco-romaine.
Voilà, gréco-romaine. Hein. On est plus là, effectivement, dans une référence large à l'antiquité gréco-romaine. Hein. Ordre
Corinthien.
Hein, on est dans une architecture corinthienne. Et effectivement, une référence à l'antiquité gréco-romaine. Il y a quand même quelques éléments qui sont, si je veux dire, pas très catholiques. Il y en a un, par exemple.
Les statues,
le drapeau. Ah, le drapeau, oui, je suis pas sûr que sur les, que sur le Parthénon, il y a eu beaucoup de drapeaux, effectivement. Ça, c'est vrai. J'y avais pas pensé, d'ailleurs. C'est vrai que ce genre de bâtiment de côté, je vois pas d'exemple vraiment dans l'architecture gréco-romaine. Pardon ? Les portes vitrées, oui, ça c'est vrai qu'elles seraient plutôt pleines hein, dans l'architecture antique. Oui. Il y a aussi le nombre de colonnes quand même. Hein. Alors quelquefois, on fait gros dans l'architecture antique, mais là, on y est allé carrément. Hein. Une idée de l'architecte ? Non ? L'Assemblée nationale quand même. Hein. Ce qui nous représente tous. L'architecte. Soufflot, celui du Panthéon. Hein. Voilà. Réponse. Un architecte bourguignon. Eh oui, non, voyez. Mais en fait, on les connaît très mal, les architectes du 19e. Hein. Oui. Déjà, ceux des siècles avant, mais ceux du 19e, alors vraiment. Poyet, un architecte né à Dijon au milieu du 18e siècle. Hein. Et vous aviez raison, hein. La façade que vous avez là date du tout début du 19e siècle, hein, donc du Premier Empire. Hein. Ce palais Bourbon, ce qu'on appelle ainsi, on l'a construit ex nihilo.
Non, parce qu'on a récupéré quelque chose de la famille de Bourbon, mais je ne sais plus qui.
Effectivement, la façade que vous voyez là, elle est plaquée sur un hôtel particulier préexistant qui est derrière. Vous êtes déjà allé derrière l'Assemblée nationale ? Derrière l'Assemblée nationale, il y a l'hôtel particulier qui fait maintenant partie de l'Assemblée nationale, hein, contre lequel on a plaqué ce bâtiment néoclassique qui date du début du 19e siècle. Hein. Donc en fait, si vous voulez, on n'a pas construit tout d'un coup. Hein. On a, déjà pas mal, vous allez me dire, parce que c'est monumental, hein, mais plaqué une espèce de grand bâtiment avec ses deux ailes hein, sur le bâtiment que l'on voit très bien à l'arrière, quand on est sur la place à l'arrière du Palais Bourbon. Bien, donc, Poyer, Assemblée nationale, un bâtiment effectivement néoclassique du début du 19e. Et ça, c'est un autre bâtiment, puisque là, on commence par les bâtiments qu'on l'a qualifié tout à l'heure de républicains, hein, des bâtiments qui incarnent la fonction républicaine nationale pour l'Assemblée nationale. Ça, vous disiez que c'était quoi tout à l'heure ?
Une mairie.
Hein. Et laquelle ? Vous disiez que c'était peut-être la mairie de Paris, c'est-à-dire l'hôtel de ville,
non.
L'arrière. Ça n'est pas l'arrière de l'hôtel de ville. Ça peut ressembler, effectivement. Hein.
Il y a pas d'armes, déjà.
Pardon ?
Il n'y a pas d'armes.
Oui. et puis, l'hôtel de ville, il a été construit quand, d'ailleurs ? Ouais. L'hôtel de ville qu'on voit aujourd'hui, il date de quand ? Ouais. Pourquoi ? Eh ben voilà. Parce que l'hôtel de ville aujourd'hui a brûlé hein, durant la commune. Hein. Et donc c'est après qu'on l'a reconstruit. Hein. Dans quel style, l'hôtel de ville ? Néo ?
Gothique.
Néo-moyenâgeux ?
Oui.
Non, néo-renaissance.
plutôt néo-naissance, hein, parce que le vrai Hôtel de Ville, enfin celui d'avant, celui qui a brûlé, était de style entre guillemets naissance. Hein. Donc on l'a reconstruit dans un style approchant l'Hôtel de Ville brûlé au 19e siècle, effectivement. Donc ça, ça n'est pas l'arrière de l'Hôtel de Ville. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez dire du style de ce bâtiment ?
Il y a une rosace.
Il y a une rosace comment ? Oui.
Qui n'est pas vraiment gothique.
C'est un vrai mélange.
Hein. Ah oui,
c'est
oui.
Un vrai mélange que vous avez là. Hein. Oui, oui. Tiens, vous avez effectivement ça. Donc ça, c'est quoi ?
La rosace.
Une rosace, mais gothique. Hein. Vous avez une rosace gothique. Et les rosaces gothiques, on les voit sur quoi ?
Les cathédrales.
Sur les églises, les cathédrales. Là. Qu'est-ce que vous voyez d'autre ?
La balustrade.
Des balustres, c'est ça dont
oui,
vous parlez là ?
Oui,
oui. Et puis, plutôt vaguement en essence, effectivement, qui ne sont pas trop gothiques.
Et la porte à droite ?
Des colonnes ioniques. Des colonnes de quel genre, d'ailleurs ? Engagées. Hein, des colonnes ioniques engagées.
La porte à droite qui se veut gothique.
Qui se veut gothique ? À côté de ça, qui est quoi ça ?
Ah bah, c'est
un pilastre. Et qui est lui d'ordre ionique. Donc effectivement, cette architecture, elle est complètement
mélangée.
Hein. Elle est mélangée parce que vous avez du gothique, vous avez du néo-grec, vous avez du renaissance. Enfin bref, c'est un... Salmigondi, quoi. Hein. Et un Salmigondi au niveau des différents styles, entre guillemets, hein, entre guillemets. Il y a du gréco-romain, du médiéval, de la Renaissance, mais également un mélange au niveau de quoi ? Qu'est-ce que nous avons remarqué tout à l'heure avec la rosace ? Pardon ? Ben voilà, ça peut être une église. Est-ce que ça en est une ?
Peut-être que c'était que ça en est une.
Ah, ça pouvait en être une et elle aurait été... voilà. Hein. Ben, en fait, non. Oui, voilà, il y a un côté mélange des fonctions, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a une rosace comme une église, alors que ce bâtiment n'est pas une... Qu'est-ce qui nous montre d'ailleurs que ce n'est pas une église ? Hein ? Alors, il n'y a pas de clocher, il pourrait être à droite, invisible. Ben, le fait qu'il y ait des drapeaux, oui. Normalement, la loi de séparation de l'église et de l'État... Pardon ? Normalement, il n'y a pas de drapeau sur les églises. Hein. C'est pas... Voilà. Hein. Donc, évidemment, ce n'est pas une église, mais ça en a un peu l'air. Hein. Donc, il y a là un mélange au niveau de la typologie de l'architecture. Il hein. Y a des niveaux, enfin, des périodes de référence très différentes. Et les fonctions ont l'air également très mélangées. Et vous aviez raison, c'est une mairie. Hein. Alors, ce n'est pas celle du 20e, c'est celle du...
Premier.
C'est la mairie du premier arrondissement. Qui se trouve où d'ailleurs ? Juste derrière le Louvre. Vous parliez de Saint-Germain-l'Auxerrois tout à l'heure. Hein. Ben, à côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, il y a une mairie, c'est celle-là.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle le style éclectique ?
Absolument. C'est ce qu'on appelle le style éclectique. C'est-à-dire, voilà, il y a le tout. C'est très mélangé. Ça, c'est... Vous allez vous faire deviner le nom, ben, voilà, le mot. C'est... ce qu'on appelle l'architecture éclectique. C'est-à-dire qu'on mélange tout. En fait, c'est une architecture qui est possible à la suite de tout ce qu'on a vu précédemment, si vous voulez. C'est une architecture qui mêle toutes les couches d'architecture qu'on s'était vertu à décortiquer dans les séances précédentes. Itorf, ça vous dit quelque chose ? Non, rien ? Alors, il est d'origine allemande, absolument. Hein, même si je crois qu'il a été naturalisé français. Voilà. Vous ne connaissez pas un grand bâtiment célèbre qui a été construit par lui ? Non, on en parlera peut-être tout à l'heure. Non ? Itorf. Itorf, c'est un architecte très important au 19e siècle. Hein. Donc la mairie du premier arrondissement, qui est du milieu du 19e, je crois que vous aviez à peu près dit ça tout à l'heure. Voilà pour les bâtiments, entre guillemets, républicains. Voyons maintenant les bâtiments religieux. Vous aviez bien identifié tout à l'heure la Madeleine. Donc c'est bien elle. C'est bien la façade principale. Hein. D'ailleurs, la façade arrière, le fronton est aveugle. Enfin, il n'y a rien sur le fronton. Parce qu'il y a un petit problème. Il n'y avait plus d'argent. L'église de la Madeleine, wow. D'abord, est-ce que ça devait être une église au départ ? Eh ben non. Ça devait être quoi au départ ? Un temple. Un temple en l'air de qui ? Pardon ? Pas tout à fait de la République. Pardon ?
La raison.
De la raison non plus. Pardon ? L'art non plus. Ça a été construit à quelle époque, ou du moins début d'être construit à quelle époque ? Au début du 19e, et politiquement, c'est quoi le début du 19e ? C'est l'Empire. Hein. Donc effectivement, c'est construit, enfin, le choix de cette construction revient à Napoléon Ier. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il voulait faire de ce lieu ? Pas tout à fait un mausolée. Plutôt un cénotaphe, mais en l'honneur de qui ? Des mêmes ? De lui-même. Ah non, pas lui. Non. De l'être suprême non plus. D'ailleurs, le mausolée, l'être suprême, le sénateur, on n'enterre pas l'être suprême. Oui, oui. Un cénotaphe de la victoire. Voilà. C'était plutôt ça. L'idée était de créer un monument en l'honneur des héros, n'est-ce pas, hein, en l'honneur des... Ça me rappelle des choses, en l'honneur des héros qui, évidemment, se sont illustrés au cours des guerres napoléoniennes. Hein. L'idée était de faire ça, au départ. Hein. Seulement, voilà, comme vous le savez, l'héroïsme de Napoléon a tourné un peu court, hein, dans les années 14-15, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'idée de faire un temple des héros, alors qu'à la fin, Napoléon a collectionné les raclés, si je puis me permettre cette expression, a tourné un peu court, si vous voulez. Et ce qui a tourné court aussi, je vous le disais dit, c'est les finances. C'est-à-dire qu'à la fin du règne de Napoléon... le monument n'était pas fini, et il n'y avait plus trop d'argent pour le terminer. Bon. Alors, on a quand même réussi, au fur et à mesure, à construire ce bâtiment. Ce bâtiment, vous voyez là, vous en avez laissé à l'architecte, peut-être ? Non ? Il y en a deux. C'est Vignon et Huvet. Effectivement, on a commencé cette église, la Madeleine, qui n'était pas une église au départ, en 1806, et on l'a terminée en 1842. Vous voyez, quasi un demi-siècle pour construire ce monument. Hein. Pourquoi avoir choisi cette forme ? Là aussi, la référence de ce monument, c'est quoi ? Un temple grec ou gréco-romain. On est toujours, n'est-ce pas, dans la référence antique. Hein, là, c'est très clair. C'est plus orthodoxe, d'ailleurs, que ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et pourquoi avoir choisi ce type d'architecture plutôt qu'un autre ? Ici, à cet endroit-là, par exemple. Oui, voilà, c'est une référence à la grandeur antique. Hein. Alors, évidemment, des héros, les célèbres, avec ce qu'il y a de plus grand, hein. Napoléon Ier, il célèbre ses héros comme on célébrait les héros de l'art antique. Ne pas faire un petit mausolée un peu gothique. Non, il fallait du romain, du monumental, de l'antique. Hein. Et puis il fallait aussi que ça corresponde avec le monument qui est en face. C'est quoi le monument en face ?
L'Assemblée
nationale. Hein. Alors, vous le disiez un peu tout à l'heure, hein, fallait... que l'Assemblée nationale et la Madeleine, qui vraiment sont face à face, hein, même s'il y a la place de la Concorde, se correspondent. Hein. Voilà le côté, c'est vraiment, alors là, hein, une sorte de... À quel temps ça vous fait penser, peut-être plus monumental ? Pardon ? À quel temple antique ? L'Acropole, oui, le Parthénon. Ouais. Ordre
Corinthien.
Ça peut aussi faire penser, vous savez, on en a parlé quand on a parlé de l'architecture romaine, à la maison carrée de Nîmes, au temple d'Auguste et de Livy. Hein. Voilà. Alors là, on est en beaucoup plus monumental, mais c'est quand même des références. Hein. Et là, vraiment, c'est pareil sur toutes les phases. Enfin, la face avant, la face arrière sont les mêmes. Les deux côtés aussi. Il y a vraiment une espèce de volonté comme ça de coller au plus près de l'architecture antique, effectivement. Ah ! Autre église. Ouais, c'est une des dernières que l'on a vues et vous ne saviez pas trop ce dont il s'agissait. Avant de voir de quelle église il s'agit, là la référence, c'est quoi ? Il y a aussi l'Antiquité, du moins avec le portique. Hein. Le portique, c'est l'Antiquité, absolument.
Oui, mais les tours.
Les tours, pas trop. Hein. Les tours, elles font plutôt penser à quoi ?
Ben oui, du roman.
Oui, on pourrait presque penser à ça. Et puis, est-ce que ça ne fait pas penser à un autre monument parisien très célèbre ? Saint-Sulpice. Vous connaissez l'église Saint-Sulpice, hein ? L'église Saint-Sulpice, il y a deux espèces de tours comme ça, de chaque côté, une façade très longue avec des colonnes. Hein, sauf qu'il y a deux niveaux de colonnes, etc. Saint-Sulpice, ça date de quand ? Pardon ? Non, ça date du 18e siècle. Hein. C'est du siècle précédent, Saint-Sulpice. Hein. C'est du 18e. Alors, là aussi, Saint-Sulpice a été un chantier très compliqué, qui s'est, égrené jusqu'au début du 19e, mais on va dire que le projet général et la façade, c'est du 18e. Hein. Donc là, effectivement, on a une architecture qui est un peu... Comment est-ce que vous la qualifieriez, là aussi ?
Éclectique.
Ben voilà, éclectique mélangée. Hein. On a de l'antique, on a une référence au 18e. D'ailleurs, Saint-Sulpice même est déjà un peu éclectique, d'une certaine manière. Hein. On a donc là la reprise de ça. Alors, cette église, une idée de ce que c'est, non ? Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, on est dans la première moitié du 19e. C'est très tôt, hein, 1831-44. Hein. Donc, première moitié du 19e.
Ah, mais encore, il t'a.
Saint-Vincent-de-Paul, les arrondissements à Paris, j'ai toujours du mal.
Oui.
C'est pas un quartier où on va beaucoup. Hein. Donc, y a pas, je vois pas de monument célèbre près de Saint-Vincent-de-Paul. J'aurais peut-être dû regarder, d'ailleurs, vous les mettre, les arrondissements. Voilà, oui, vous regarderez. C'est en tout cas rive droite, mais je ne saurais pas vous dire, moi, à Paris, les arrondissements, j'ai du mal. Et ça. Alors là, la référence.
Gothique.
Hein, là, on est dans du gothique. Hein. Donc, vous voyez que ce début du 19e, il est décidément très. Éclectique. Les monuments le sont, mais j'allais dire l'inspiration aussi. Hein.
Fin Charles X, début Louis-Philippe, on a eu ces inspirations gothiques qui étaient très à la mode.
Tout à fait, très très à la mode. Hein. C'est ce qu'on appelle l'esprit troubadour, voilà. Puis le néo-gothisme, le goût du gothique. Hein. Donc effectivement, ça a été très à la mode. Cette église-là, bah, écoutez, je vous dis ce dont il s'agit, c'est Sainte-Clotilde. Ça, c'est rive gauche, au contraire. Hein. Voilà. Hein. Quelle énorme église, c'est superbe, ça me le dit, c'est très très beau. Hein. On ne regarde pas ça, on ne sait pas regarder l'architecture du 19e. En France, on ignore, on tourne le dos à l'architecture du 19e. On n'y connaît rien, on ne regarde pas, on trouve ça trop récent. On l'a démoli d'ailleurs, hein. On l'a démoli l'architecture gothique, ou néo-gothique, ou 19e, parce qu'on ne la regarde pas. Les Français n'ont pas de regard pour l'architecture du 19e, hein. On ne la connaît pas. Et à Paris, on passe devant ça, comme ça. Mais c'est extraordinaire ça. Ça a été construit par quelqu'un d'origine allemande, c'est Alexandre Pfleger-Mittorf. Oui, oui.
Et à peu près du même âge.
Oui, et qui est originaire, comme par hasard, de Cologne. Oh, à Cologne, il y a une grosse cathédrale, la fameuse cathédrale. Hein. Donc vous voyez, c'est très très intéressant. On est là devant une extraordinaire, énorme église gothique. Puis alors, là, je vous parle comme d'architecture, mais généralement, à l'intérieur de ces églises, il y a des peintures murales, avec tous les peintres académiques du 19e. C'est des véritables musées de peinture, tous ces lieux-là, mais on ne les connaît pas assez. Hein. Voilà. Pardon ? Alors, ça, c'est donc rive gauche. C'est. Après. Oui, c'est ça, c'est du côté du Palais Bourbon. C'est après les Invalides, si vous voulez, sur la gauche, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Il y a une espèce de grande esplanade et il y a l'église dans le fond. Oui, il y a un square. C'est très beau, c'est en bon état. Hein. C'est un monument vraiment étonnant, hyper néo-gothique. Hein. C'est un des gros monuments néo-gothiques très cohérents. Hein. De la capitale. Ça, hein. Encore un monument religieux, puisque là on est après les monuments républicains dans les monuments religieux. Alors ça, c'est, ben, je vous le dis tout de suite, c'est l'église de la Sainte Trinité. Hein. Voilà. Et là aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire autour de du style de cette église qui est due à Balu, hein. Ben oui, toujours pareil. Hein. Ben oui. Ben oui, on est là aussi dans une sorte d'architecture très éclectique. Hein. C'est vraiment la marque du XIXe siècle. Encore que l'église précédente, elle, était très néo-gothique. Hein. Mais ce qui est éclectique, c'est quelquefois soit les monuments eux-mêmes qui mélangent tout, on l'a vu avec la mairie du premier, hein, soit, j'allais dire, les différents styles qui s'étalent dans la ville à la même période. Hein. On a finalement pas très loin l'un de l'autre des églises qui sont néo-gothiques ou complètement mélangées à la fois gréco-romano-gothiques. On a vu des choses sulpiciennes tout à l'heure. Bref, ce qui est éclectique, c'est les monuments eux-mêmes et la manière dont les architectes à cette époque font dans une même ville des choses de styles différents et parfois mélangés. Hein. Voilà. Là, vous trouvez que c'est... Si vous aviez à décortiquer cette façade, vous diriez qu'il y a quoi comme style de référence ?
Des fenêtres gothiques.
Ouais.
L'espèce
de rosace qui est là. Hein.
Oui, ouais. La construction de la tour avec quand même des fenêtres gothiques, il y a le lanterne.
Vous avez regardé par exemple ces arcs-boutants ou ces remplages, ça c'est très gothique. Mais ça,
avec un lanterneau.
Voilà, Renaissance, un lanterneau de Renaissance. C'est-à-dire qu'on a des éléments gothiques, Renaissance, on a là des niches qui n'ont rien envie à ce qu'on trouvera dans l'intérieur du Panthéon. Enfin bref, on a décidément cette espèce de salmigondé éclectique hein, qui est décidément la marque du 19e siècle, l'architecture en particulier. Dans le 9e. Bon, mais ça, je... Moi, les arrondissements, je suis très... du mal. Et alors ça, vous aviez raison tout à l'heure, hein, c'est Saint-Augustin. Hein. Donc ça, c'est l'église Saint-Augustin, qui est l'œuvre de...
Baltard.
Donc le même que les Halles. Ça, on connaît Baltard parce qu'on a démoli ces Halles. Ça, c'est bien nous autres Français. Hein. On a démoli les Halles de Baltard. Ça a été une bêtise monumentale. Alors à cause de ça, on connaît Baltard parce qu'on a démoli son monument. C'est malin. Hein. On n'est pas capable de connaître les auteurs des œuvres qui existent encore. On connaît Baltard parce qu'on a démoli les Halles. Hein. Et bien Baltard, il n'a pas fait que les Halles. Il a fait ça aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette église-là ? Là aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire comme analyse de cette œuvre-là ?
Ça aussi, c'est éclectique.
Oui, là aussi, c'est éclectique. Alors, justement, qu'est-ce que vous voyez comme ce puzzle, il est fait de quoi ?
La coupole
et ouais, Renaissance. Elle fait même penser, par exemple, vous savez, aux Invalides ou au Panthéon, dont vous parliez tout à l'heure. Hein. Donc, la coupole, effectivement, elle fait, en gros, elle cligne de l'œil de la Renaissance et du XVIIIe siècle. Et puis, la façade, elle ?
Bon.
Gothique. Alors gothique pour, vous avez raison, ça, encore que, il y a une rosace qui est gothiquisante, vous voyez. Et ça, oui voilà, plutôt néo-roman.
Hein. Et on suppose du métal à l'intérieur, non ?
Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à l'intérieur du métal.
Et puis on le suppose d'après la forme générale.
Tout à fait, absolument. Là, cette architecture-là, vous voyez, qui est en pierre à l'extérieur, elle est métallique à l'intérieur. C'est-à-dire que Baltard, le fameux constructeur des Halles, hein, martyrisé, hein, eh bien, il est l'un des tout premiers à avoir travaillé l'architecture métallique. Hein. Et ça, c'est complètement novateur. On est là, dans le début de la deuxième moitié du 19e, et cette église, qui était en plus située entre deux rues, dans un terrain pas commode, hein, il n'y avait pas beaucoup d'espace, difficile de faire des arcs-boutants, etc. Et bien, pour répondre à tout ça, il a utilisé le métal. Vous avez donc là une architecture métallique tout à fait étonnante, hein, mais qui est habillée par cette architecture en pierre. Vous voyez que Baltard, c'est vraiment le grand bonhomme du métal. Il n'y a pas que Eiffel. Hein, elle vient d'être restaurée, d'ailleurs. On commence enfin à restaurer les églises de Paris, du 19e. Hein, il était grand temps. Certaines s'écroulent. Là, la façade commençait à s'écrouler littéralement. Hein. Donc on a, il y a deux ans, commencé sa restauration, qui vient d'être terminée. Voilà le résultat. Oui, une façade très néo-romane. Hein. On a l'impression d'être devant à Ravenne, si vous voulez, grosso modo. Hein, vraiment, on est dans l'éclectisme. Une façade très étroite, hein, il y avait peu de place. Hein. Voilà. Alors, on a regardé les monuments républicains, on a regardé toute une série de monuments religieux. Maintenant, les bâtiments, je vais dire techniques, économiques, etc. Donc ça, c'est quoi ?
La bourse
du commerce, vous disiez. Hein. Attention, c'est la bourse, mais pas la bourse du commerce. Parce que c'est quoi la bourse du commerce ? Parce qu'il y a une bourse du commerce à Paris, effectivement. Mais c'est quoi ? Ça, c'est la bourse. Mais il y a la bourse et la bourse du commerce. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le palais Brongniart. Hein, pourquoi est-ce qu'on appelle le palais Brongniart ?
L'architecte.
Voilà, l'architecte, c'est Brongniart. Donc c'est la bourse, mais il y a un bâtiment qu'on appelle la bourse du commerce. C'est quoi? Elle est où, la bourse du commerce? À côté des Halles, absolument. Hein. Au bout des Halles, on l'a, je vous la montrerai tout à l'heure, il y a un bâtiment circulaire qui est la bourse du commerce. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une actualité concernant le bâtiment circulaire, parce que, alors je ne sais plus, c'est Pinault ou Arnault, mais un de ces deux Français les plus riches du monde, comme vous le savez, qui va y installer bientôt sa collection d'art contemporain. Il est en train de faire des travaux énormes par un architecte japonais, Tadeo Ando, je crois, qui est en train d'habiller l'intérieur de la bourse du commerce pour que Pinault ou Arnault, je ne sais plus, l'un des deux, la fondation, elle a été construite par Kipsey, la fondation Vuitton, c'est Pinault ou Arnault? Moi, je les confonds, ils n'ont pas ce que le même nom, ils sont aussi riches. Non, c'est Arnault? Non, c'est Pinault? Je ne sais plus. Tous ces gens très riches, on les confond tous. De toute façon, ils sont tellement riches, tous pareils, je ne sais pas. Bon, enfin bref, c'est pas celui qui a fait la fondation Vuitton, mais c'est l'autre. Vous savez qu'ils sont deux à se concurrencer, là. Hein. Celui qui a sa fondation à Venise, là, eh bien, il est en train, dans la bourse du commerce, ce bâtiment circulaire qui est au niveau des Halles, de l'aménager pour émettre sa collection d'art contemporain. Ça va être fait d'ici la fin de cette année. Donc ça, c'est la bourse tout court, qui n'est pas la bourse du commerce. Ça date aussi du début du 19e, et là aussi, comme architecture, la référence, c'est l'Antiquité. Mais une antiquité un peu revue et corrigée, hein, parce qu'il y a de la colonne, d'accord.
Oui, enfin, mais
y a des... voilà, c'est ça.
Il y a un décrochement.
Voilà, on a, alors d'abord là, le nombre de colonnes, on n'a jamais vu ça dans l'antiquité, hein. Et puis il y a effectivement des décrochements. Enfin, là, il y a une sorte de déformation du plan basique d'une architecture gréco-romaine traditionnelle. Et alors ça, vous aviez raison. C'est l'unique pavillon sauvé des Halles. Il n'y en a pas eu 50. Il y avait, je crois, 12 ou 14 pavillons. Il en reste zéro, puisque tout a été entièrement détruit, sauf celui-là. Et vous aviez raison, il a été, bravo, transporté à Nogent, hein, Nogent-sur-Marne. Ah, ben c'est pour ça. Et voilà, et donc il est conservé, c'est le seul. Hein. Tous les autres ont été entièrement détruits. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette architecture-là ?
Métal.
Voilà, c'est décidément le métal. On vient de parler de Baltar, c'est à nouveau lui. Ça, c'est une architecture, évidemment...
Métal et vert.
Métal et vert.
Et donc, il n'y a pas de mur porteur, il y a des poteaux porteurs.
Absolument.
Absolument. À Dijon, c'est une reconstitution ?
Non, c'est une halle aussi du 19e siècle. Vous parlez de la halle qui est du marché, quoi. Elle date du 19e siècle. Hein. Oui, oui, absolument. Oui. Oh, il y en a eu comme ça toute une série. Quelquefois, elles ont été détruites. Hein. On a même détruit celle de Chalon. Ça, c'est une sacrée bêtise. Sacrée bêtise. Bon, qui n'était pas du tout comme ça. Hein. Qui était une halle ronde en pierre, mais qui avait une charpente extraordinaire. Tout ça a été complètement éliminé.
Et il y avait des pierres d'angle extérieures, extraordinaires comme sculpture monobloc.
Ah, ben absolument. C'était extraordinaire. C'était entièrement détruit. Auxerre a détruit ça aussi. C'est
tristissime.
Bon. Enfin, l'exemple est venu de haut, Paris l'a fait, alors la province a bien sûr. Voilà. Très très malin. En tout cas, à l'origine, vous rappelez que c'était ça. La bourse du commerce, c'est elle. C'est ça. Hein. Donc il y avait les Halles, Saint-Eustache, vous voyez là. Et voilà la bourse du commerce. Elle est là, hein, c'est ce bâtiment-là. Hein, qui date du 19e, et à côté, il y a une colonne qui est une sorte de gnomone qui date du 16e siècle et qui a été élevée par Catherine de Médicis. Hein. Ça date du XVIe siècle, hein, cette colonne qui existe toujours, qui est à côté de la bourse, à côté de la bourse du commerce. Et voilà, la bourse du commerce, c'est tout ce qui reste avec la colonne dans ce secteur-là. Hein. Donc une architecture très intéressante, une architecture métallique. Alors ça, vous aviez raison, c'est la gare du Nord. Le XIXe, c'est le grand siècle des gares. Hein. Qui est-ce qui a construit ça? Monument très passionnant, la gare du Nord. Hein. Qui se réfère à quoi, stylistiquement parlant, la référence de ces gares, et notamment de celle-là, c'est quoi?
C'est pas les termes.
Si, ce sont les termes antiques. Ce que vous avez là, c'est quelque chose qui reprend l'architecture des termes antiques. Vous vous rappelez des termes de Caracalla, hein, qu'on a vu l'autre jour? Eh bien, ça reprend ça. Ça reprend aussi, de manière peut-être quelquefois moins évidente, mais l'architecture des basiliques. Vous savez, ces basiliques antiques romaines, hein, voilà. Avec souvent une grande nef et éventuellement des nefs sur le côté. On a un peu la même chose là. Hein. Et là, celui qui a réalisé la gare du Nord, c'est du Nord, pardon, c'est notre fameux Itorf. Alors, celui de tout à l'heure. Architecte très important. Et puis, bien sûr, parmi les gares, il y a celle d'Orsay, le siège du musée que nous connaissons tous. Et vous aviez raison, hein, ça date de la deuxième moitié du 19e et même tard, hein, puisque ça a même été terminé au tout début du 20e. Vous savez que ça aussi, elle a failli être détruite, hein, la gare. Oui, et qu'une extrémiste, elle a été gardée. On se demande comment, on n'a pas... Bon. Voilà. L'intérêt de la gare d'Orsay, en termes d'architecture...
C'est une impression de palais.
Oui. Vous avez raison. C'est-à-dire le cas aussi pour la gare du Nord. C'est peut-être encore plus vrai pour la gare d'Orsay. Et quelle est l'idée qu'il y a derrière ça? Vous avez raison. C'est une architecture palatiale. Il y a de la sculpture, il y a du décor. Hein. Pourquoi? Oui, c'est pas faux. On arrive, on part, hein, on part d'une grande ville, on arrive dans une grande, oui. Ça, il y a comme ça une sorte d'affichage, hein, de la cité, c'est vrai. Pour faire honneur au progrès aussi, hein, c'est le progrès. La gare, c'est le lieu du progrès. Alors, faut que ce soit grand, on célèbre le progrès, c'est vrai.
Mais elle était rapidement construite.
Très vite construite, très très rapide.
Deux ans.
C'est très vite. C'est bien pour ça, quelquefois, il y a des petits problèmes. Hein. Puis il y a peut-être une autre raison pour laquelle on fait de ces gares des vrais palais. On aurait pu faire des trucs un peu plus légers. Hein.
C'est le modernisme.
C'est le modernisme. Puis aussi la célébration républicaine du peuple qui utilise les gares. C'est-à-dire que, quelque part, ce sont des palais pour le peuple. Hein. Après tout, qu'est-ce qui va dans les gares? Ben, vous et moi, tout le monde. Hein. Eh bien, en faisant d'une gare un palais, c'est une manière de faire, pour monsieur, madame, tout le monde, des palais. La gare, c'est le palais du peuple. Il n'y a pas de raison que la gare, ce soit du placoplasme, si vous voulez. Voilà, entre guillemets. Hein. La gare, elle doit aussi célébrer les gens qui l'utilisent. La gare, quelque part, c'est un monument république. Ça doit être aussi un palais. D'ailleurs, quelquefois, ça allait vraiment... Vous savez qu'au bout de la gare d'Orsay, vous avez l'hôtel, hein, oui. Dans lequel il y a quand même 300 chambres, hein, au 19e, hein, et qui est quand même un lieu assez décoré. Hein.
Il reste le restaurant.
Pardon ?
Il reste le restaurant.
Oui, il reste le restaurant. Ouais. Oui, les chambres, elles. Pas encore que dans les parties administratives, notamment la documentation, etc., on a encore les...
Ouais.
Alors, il y a un dernier type de monument, qui sont les monuments, effectivement, de loisirs. Alors ça, on ne croirait pas, vu la chaleur de cette salle qui, décidément, ne se départit pas de séance en séance. Il fait toujours aussi chaud ici. Ouais. Les fois dernières, les radiateurs étaient éteints. Hein. Alors qu'on se gelait. Là, ils sont toujours allumés. Bien. Oui, alors c'est le cercle d'hiver, hein, qui a été construit par...
Encore.
Itorf est un des anciens qui a vraiment modelé la capitale. Hein. Alors là aussi, on se réfère à quoi? Toujours à l'Antiquité. Hein, voilà. Il y a d'ailleurs une chose qui est vraiment une citation quasiment de l'Antiquité. C'est quoi?
La frise.
Oui, la frise. Hein. La frise, elle évoque quoi? Elle se réfère à quoi? Ben voilà, à la frise du Panathénée, des processions des Panathénées, du Parthénon. Vous rappelez ce qu'on a vu dans les premières séances, hein. Ce que vous avez là, c'est la reprise, le pastiche, si vous voulez, de la frise des processions des Panathénées. Vous savez que les cavaliers, les uns derrière les autres, on a parlé déjà. Hein. Ben, c'est la reprise dans le cirque d'hiver, hein, qui est le seul cirque de la capitale qui existe encore. Hein. Voilà. Oh, il y en a un autre très beau en France de cirque. J'aurais dû vous en mettre une photo. Exactement. À Amiens, il y a un superbe cirque, en dur, hein, cirque Jules Verne, construit par Jules Verne, qui a été, vous savez, conseiller municipal d'Amiens, et qui a fait construire le cirque d'Amiens, qui est très très beau. Voilà. Bon, et ça, L'Opéra Garnier, donc vous le connaissez, il a été effectivement construit sous Napoléon III. Vous connaissez l'anecdote avec l'impératrice Eugénie au moment de l'inauguration de l'Opéra Garnier ?
Non.
Enfin, de l'inauguration un peu avant, en tout cas. J'ai une anecdote assez amusante. L'impératrice Eugénie n'était pas du tout d'accord pour que ce soit Garnier qui construise l'Opéra Garnier. Elle avait son poulain à elle, qui était un architecte très célèbre à l'époque, que Eugénie voulait voir construire l'opéra. Un architecte super célèbre. C'était Eugène Viollet-le-Duc. L'impératrice voulait que Viollet construise l'opéra. Le problème, c'est qu'il y a eu un concours anonyme, plein de dossiers ont été envoyés, dont celui de Viollet-le-Duc, et c'est une commission indépendante qui a choisi et qui a viré Viollet-le-Duc dès le premier regard sur les sujets. Il est vrai que le projet de Viollet-le-Duc pour l'Opéra de Paris n'était pas extraordinaire. Hein. En tout cas, Viollet-le-Duc a été éliminé tout de suite. Et c'est finalement Garnier, qui est un architecte avec 35 ans, hein, qui n'avait jamais rien construit, qui va être choisi anonymement, puisque les dossiers étaient anonymes. Hein. Alors évidemment, l'impératrice n'était pas très d'accord. Et un jour, voyant Garnier, voyant le projet et l'opéra qui se montait, elle vient voir Garnier en disant, enfin, c'est quoi votre affaire? C'est du roman? C'est du gothique? C'est du grec? C'est du romain? C'est quoi votre truc, hein? Et qu'est-ce que lui a répondu Garnier? Alors, il n'a pas dit c'est du Garnier.
C'est du Napoléon
III. Il a dit c'est du Napoléon III.
Pas mal.
Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, ce qu'on a là, c'est du Napoléon III. Ça, c'était remarquable à part de Garnier qui, par là, soulignait le style de son art. C'est quoi, finalement, le style de l'Opéra de Paris? C'est du Napoléon III. Et le Napoléon III, finalement, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Éclectique. On est vraiment ce qui marque le 19e siècle et singulièrement le Deuxième Empire, c'est cet éclectisme. On a vu vraiment tout était permis. Mais rappelez-vous, vous avez déjà tout permis à la fin du 19e. On peut tout faire. Vous mélangez le gothique, le roman, l'antique, vous êtes dans l'éclectisme. Ben c'est finalement ce que, dans la deuxième moitié du 19e siècle, va faire Garnier. Quand on voit l'Opéra de Paris de côté, voilà le dessin de Garnier pour le côté de l'Opéra de Paris, qu'est-ce qu'on remarque aussi qui a pu un peu choquer, surprendre? C'est quoi? Oui, ça fait très bâtiment sur bâtiment, hein. Côte à côte ou au-dessus. Hein. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il y a ça là, puis ça là, puis ça là? C'est quoi tout ça? Pardon?
Pour des raisons pratiques.
Oui, mais enfin, on aurait pu concevoir ça autrement. Qu'est-ce que montre Garnier dans une architecture telle que celle-là? Alors, c'est éclectique, mais... on aurait pu faire un éclectisme plus lissé, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que cette architecture permet de montrer de l'extérieur? Parce que, je ne sais pas, moi, je ne suis pas architecte, mais j'aurais peut-être imaginé une façade comme la Madeleine. S'il y a de la colonne partout, puis on n'en parle plus, quoi. Hein, quelque chose de propre, sharp. Voilà, des colonnes, les unes à côté des autres, un fronton, puis c'est bon.
Ça fait église quand on le voit comme ça.
Pardon ?
Ça fait église quand on le voit comme ça.
Un peu, d'une certaine manière, oui.
C'était des arts.
Alors,
les différentes parties qui sont utilisées pour différentes choses.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on voit de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Oui. C'est une architecture qui finalement, bien sûr, est très décorée, mais vous arrivez à lire de l'extérieur les fonctions intérieures. Bah, vous imaginez bien là que s'il y a ça, c'est qu'il y a la scène en dessous, et que la scène, il y a des décors, et que les décors, il faut les monter, les descendre, et que il faut de la hauteur, parce que sinon vous n'arrivez pas à monter vos décors, donc vous n'arrivez pas à les faire descendre. Hein. Là derrière, vous avez les cintres, d'où descendent les décors. Là, c'est quoi ça?
C'est une salle.
C'est la salle. Hein, c'est là-dessous qu'il y a la salle elle-même, avec la coupole, aujourd'hui peinte par Chagall, mais il y a en dessous le plafond de Le Neveu, etc. Hein, ça. C'est le grand escalier, vous savez, cet énorme escalier. Et devant, il y a quoi? Les salons. Hein, vous savez que devant l'opéra, il y a les salons de l'opéra, l'espèce de grande galerie qui est desservie par l'escalier. Bref. Et ça, c'est quoi, à votre avis?
L'administratif.
C'est l'administration. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à lire de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Alors, il y a du décor, etc. Tout ça est assez soigné, si vous voulez. Hein. Mais il y a une volonté de présenter de l'extérieur les fonctions intérieures. Ça, c'est un peu surpris. Pas très loin, il y a l'église de la Madeleine. Hein. Alors, c'est une église, on est d'accord. Hein. Mais si vous voulez, c'est pas du tout pareil, c'est même l'inverse. L'église de la Madeleine, les quatre côtés sont pareils. Là, on a une architecture d'abord éclectique et qui surtout est extrêmement dissemblable. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'avez pas un bâtiment bien lissé, vous avez un bâtiment où les fonctions sont, c'est-à-dire se trahissent dès l'extérieur.
Et ça, c'est le projet.
Ça a été fait avec elle.
Mais ça a été réalisé.
Ah oui, si vous voyez le côté de l'Opéra à Paris, c'est ça.
D'accord.
Ah, peut-être quelques détails près. Oui. Je ne suis pas allé regarder une corniche ou un antéfix, mais. Hein ? Et alors là, vous aviez raison. C'est l'ancien palais du Trocadéro. Hein, qui a été construit pourquoi ?
Pour une salle de spectacle.
Alors, c'était une salle de spectacle et de, on va dire, d'exposition, ce qui a été effectivement construit pour l'exposition universelle de 1978. Et l'ironie du sort, c'est qu'on l'a redémolie pour l'exposition universelle de 1938. 37, 35, je ne sais jamais. Enfin, des années 30. Hein. Voilà. Donc, c'est un bâtiment construit pour une exposition universelle, mais détruit pour faire l'actuel Trocadéro, construit dans les années 30 pour l'exposition universelle des années 30. Donc, je ne sais jamais la date précise.
Hein. 37.
Bâtiment, là aussi, très éclectique. Hein. Peut-être moins génial que l'Opéra de Paris, mais enfin, très éclectique aussi. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait notre petit tour dans Paris, je voulais qu'on termine cette séance rapidement par deux petits instants. D'abord, un petit instant où je voudrais vous montrer, à travers quatre photos, des architectes d'avant-garde, enfin d'avant-garde, de l'avant-garde de la fin du 19e et du début du 20e siècle.
C'est
à Lille,
c'est
la banlieue lilloise.
Et ça, c'est Corbusier.
Ouais.
Celui d'avant, c'est
Perret.
C'est
Perret.
Alors, Perret.
Ouais.
Corbu.
Ah, oui.
Perret.
Oui.
Ah, ouais.
On l'a vu.
On l'a visité.
Deux mois.
Malestévins.
Ah, oui, c'est ça.
Alors, ça.
Et pardon, Guimard.
Ah
oui.
Je résume. Guimard. Malestévins.
Oui.
Perret. Le Corbusier. Correction. Guimard. Bravo. C'est Guimard. Donc ça, c'est une construction de Guimard qui est donc très typique d'un mouvement que vous connaissez.
Art nouveau,
effectivement. Hein. Donc Guimard, vous connaissez d'autres choses de Guimard. On était à Paris, là, il y a un instant.
Le métro.
Hein. Donc Guimard, c'est évidemment le champion, ce qu'on appelle parfois le style nouille. Hein. Voilà, et donc là, on a une très très belle construction, peu connue de lui, mais qui est vraiment une belle chose. Alors, il y en a d'autres à Paris, vous connaissez sans doute l'hôtel Mézara, que voilà, hein, qui est également d'Hector Guimard. Il y en a d'autres, hein, par exemple, alors qu'on connaît moins, hein, Guimard est un peu l'arbre qui a caché la forêt, mais il y a d'autres architectes, Art Nouveau, par exemple Lavirotte, hein, avec cet hôtel à Paris, enfin cet immeuble plus exactement. Enfin bref. Guimard n'est pas l'unique architecte Art Nouveau. Hein. Ça. Malestévins, donc. Oui. Et c'est quel monument de lui, alors ?
C'est une
maison particulière. Ouais. La villa.
Cavrois.
Moi aussi, j'ai le droit à chaque fois. J'ai toujours envie de mettre le R ailleurs. Cavrois. Hein, bravo. C'est Malestévins, effectivement. Hein. On qualifierait comment cette architecture-là ?
Fonctionnel.
Ouais. Quel est le but de Malestévins dans une construction comme celle-là, qui, vous savez, vient d'être restaurée. Hein.
Ah oui.
Il vient d'être ouvert au public. C'était dans un état épouvantable. Ça tombait de tous les côtés. Ça avait été squatté, pillé. Enfin bref, ça vient d'être, enfin, ça a été acquis par l'État il y a quelques années, et maintenant, ça fait partie de la Caisse des Monuments Nationaux.
C'est comme le code de design pouvoir être reproduit et puis que ce soit pas trop...
Pas trop cher, oui. Alors, pas trop cher, mais hélas, c'était un peu cher. Mais fonctionnel, oui, effectivement. Alors, l'idée étant quand même à terme, effectivement, de faire des modèles qui pourraient peut-être se décliner. Mais là, la Cavrois, c'est quand même la villa d'industriels, enfin, de gens qui avaient un peu de possibilités. Hein, voilà. Et puis quoi d'autre au niveau des formes architecturales ?
Géométrie. L'horizontalité.
Effectivement. Et cette géométrie, vous la qualifieriez de comment ? Une géométrie à la gréco-romaine ? Après tout, la Madeleine, c'est très géométrique. La Madeleine, c'est un triangle avec des verticales.
C'est très épuré.
Très épuré. Oui, très épuré. Et puis pas du tout symétrique. Hein.
Non.
Il y a une géométrie qui n'est absolument pas symétrique.
Pas symétrique, mais équilibrée.
Équilibrée. Il y a une sorte d'harmonie, effectivement. Hein. Effectivement, une grande sobriété. Il n'y a pas d'éléments sculptés, de petits décors. C'est... Alors, il y a d'autres choses de Malestévin, hein, qui est effectivement un architecte important. Par exemple, vous connaissez peut-être ça, hein, qui est la maison de Paul Poiret. Voilà, mais que Paul Poiret n'a jamais pu tellement habiter parce qu'une fois que la maison a été presque finie, sa maison à lui est tombée en faillite, ce qui fait que il a dû la vendre. Hein. Et elle a été habitée longtemps par Elvire Popesco, vous savez, cette actrice. Voilà. Alors il y a eu quelques modifications tardives, en particulier les espèces de hublots hein, qui donnent un côté bateau d'ailleurs, notamment sur le côté. Hein. Bon, ça n'existait pas, ça donne un côté paquebot qui n'est pas très juste. Hein. Et puis alors, il y a aussi des tas de rambardes de partout qui n'étaient pas du tout prévus comme ça et qui donnent là aussi un côté un peu paquebot. Mais autrement, c'est une œuvre de Malestévin, donc toujours ce que vous avez dit, hein, sobriété, géométrie, un côté horizontal, cette volonté de fonctionnalisme, enfin tout ce que vous avez dit.
En utilisant le terrain,
en utilisant
la pente.
Ouais, ouais. Et puis cette espèce d'harmonie, hein, d'équilibre entre des angles, des courbes. Là, vous aviez raison, hein. C'est effectivement Auguste Perret. Hein. C'est quel monument ?
C'est l'église du Havre.
L'église du Havre. Ça pourrait, puisque Perret, effectivement, le grand constructeur. Mais c'est pas. Non.
Pas
Royan.
Amiens.
Pas Amiens. Ça pourrait, parce qu'à Amiens, il y a la fameuse tour Perret, hein, le premier gratte-ciel français. Hein. Une tour énorme construite par Perret, qui est une sorte de beffroi moderne. Hein, vous avez raison. Qu'est-ce qui fait l'originalité de Perret d'ailleurs ?
Béton.
Le béton hein, vous savez, hein, voilà, hein, le béton effectivement.
Avec
ça, c'est très très nouveau. Et alors c'est une église bien sûr. Et où alors ? C'est un peu le modèle des églises de Perret, ça. C'est au Rincy.
Ah oui.
C'est l'église du Rincy.
C'est du béton.
Pardon. C'est du béton.
Et puis avec inclusion des vitraux.
Absolument.
En béton aussi.
L'intérieur de l'église de Rincy est admirable. Hein.
Elle n'est pas ronde, celle-là.
Pardon ?
Elle n'est pas ronde, celle-là.
Non.
Elle est ronde.
Non.
Non. Quelle église ronde, vous pensiez ?
Au Havre.
Ah, au Havre, peut-être. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais là, non. Hein. Oui, c'est possible. Au Havre, que ce soit rond, je ne sais pas. Ouais. Bon. Vous connaissez tous ça, hein.
Mais la Colombière.
Ça s'appelle la Colombière, hein. Ici, à deux pas, et qui est l'œuvre du même Auguste Perret, hein, qu'on a failli éliminer il y a 20 ans, hein, qui a été classé Rasibus Rasis, monument historique. Hein. Heureusement, hein, un petit chef-d'œuvre de l'architecture moderne à Châlons. Hein. C'est extraordinaire, hein, c'est magnifique. Je ne dis pas ça parce que j'y ai fait ma première communion, mais quand même, c'est vraiment magnifique. C'est une très très belle chose. Les vitraux sont faits, vous savez, par une vitrailliste, hein, dont j'ai toujours le nom, mais qui est magnifique. Hein.
Et, Marguerite Huré.
Pardon ?
Marguerite Huré.
Exactement, Marguerite Huré. Et qui a une vitrailliste superbe. Hein, et vraiment, l'intérieur de la chapelle de la Colombière, c'est splendide. Hein. Au-delà de l'utilisation du béton armé, quelle est la référence de Perret ? Qu'est-ce qu'il cherche à... parce que c'est complètement moderne, hein, béton armé, dégagement de l'espace sauf qu'il y a ces piliers. Qu'est-ce qu'il y a de...
Que des volumes cubiques ou...
Oui, on est effectivement dans le cubique, dans le géométrique, dans l'angle, hein, absolument. Et
dans les bâtiments de, d'HLM, avec des cloisons qui peuvent changer.
Oui.
Là, il y a des piliers porteurs,
oui.
Et puis on change les cloisons au gré de la fonctionnalité.
Oui, absolument.
Oui, mais c'est
aussi très fonctionnel.
C'est antérieur au HLM, ça.
Oui.
Mais la lumière...
Là, là, dans une église, donc, j'appelle comme celle-là, il essaie en même temps de retrouver quoi ?
D'accord.
Alors, la lumière, lumière ouais. Ben oui. Et il y a une référence, parce que à l'intérieur, c'est à la fois lumineux, mais une lumière un peu tamisée par les vitraux, et puis il y a quand même du mur, si vous voulez. Hein. Et le vocabulaire que vous voyez là, notamment dans la forme des vitraux, parce qu'il y a des remplages dans ces vitraux, fait référence à quoi ? Quelque chose de gothique, vous trouvez ?
Ah non, 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 ça fait presque mosaïque.
Il y a un côté mosaïque.
Oui.
En fait, il y a, chez Perret, dans Jean d'Église, une volonté de retrouver une architecture antérieure à l'époque romaine, si vous voulez. L'architecture religieuse des origines. Il y a quelque chose là, je ne sais pas si vous avez en tête certaines architectures, j'aurais pu vous montrer, mais vraiment des premiers siècles de l'ère chrétienne, hein, où on a des choses, par exemple, regardez la table d'autel, hein, ça fait penser absolument au claustra qu'il y avait dans les premières églises, hein, qui souvent séparait le chœur et la nef, hein, et dont on retrouve le dessin dans les fenêtres, c'est-à-dire qu'il y a là une manière de s'inspirer d'en deçà même de l'époque romaine, vraiment du primitivisme chrétien, pourrait-on dire. Ça, c'est une chose que Perret tente de retrouver dans un vocabulaire tel que celui-ci. Et ça, c'est dans notre région aussi. Et c'est quoi ça ?
Une usine.
De Perret, toujours. Ouais. C'est l'usine de montre de Dan. C'est de Auguste Perret. Et c'est où ? Pardon ? Non, c'est dans notre région.
Jura ?
C'est pas dans le Jura, c'est dans le Doubs. C'est à Besançon.
Ah, oui.
À Besançon, il y a cette très belle usine d'Odane, hein, d'Auguste Perret. C'est classé monument historique, hein, c'est très beau. Hein. Et c'est toujours du même. Vous voyez qu'en Bourgogne, il y a quelques monuments de Perret dignes d'intérêt. Et ça, vous savez, c'est marqué. C'est le théâtre des Champs-Élysées. Hein. De Perret aussi, hein. Béton, etc., avec toute une série d'artistes qui avaient travaillé avec lui, dont Bourdel, hein, vous connaissez tout ça. Et puis, enfin... Pardon ? C'est la Villa Savoie. Hein, c'est la Villa Savoie. Qu'est-ce qui la caractérise, c'est la Villa Savoie de Le Corbusier ? Oui, alors c'est le côté, effectivement, architecture sur pilotis. Et puis... Des meubles
en béton.
Oui, oui, oui. Très lié à l'architecture. Ouais. Parce que le but de Le Corbusier, en deux mots, c'est quoi dans Jean de dans ses travaux, par exemple, ici ? On pourrait qualifier l'architecture de Le Corbusier de quoi ?
À l'échelle humaine, en principe.
Oui, oui. Peut-être qu'on pourrait utiliser le même mot que vous avez utilisé tout à l'heure pour Malestévin, ça. Modulable, on pourrait le dire. Et puis, oui, fonctionnaliste. Hein. Vraiment, c'est vraiment le geste de l'être humain qui fait l'architecture, d'une certaine manière.
Et la lumière, la recherche de la lumière.
De la lumière, très important. Hein, notamment avec ces grandes baies horizontales hein, qui n'en finissent pas. Or, il y a d'autres œuvres de Le Corbusier. Hein. Ça, c'est quoi, par
exemple ? C'est pas Marseille, ça ?
C'est pas Marseille, c'est pas la cité radieuse.
C'est pas un gymnase ?
C'est pas un gymnase. C'est pas une école.
Bibliothèque ?
C'est pas une bibliothèque. C'est pas en France. C'est où, à votre avis ? Un lieu où Le Corbusier a beaucoup travaillé.
En Suisse.
Pas en Suisse.
En Allemagne.
Pas au Brésil, ça pourrait. Pas aux USA.
En Italie ?
Pardon ? En Italie ? Non. En Inde.
Ah oui, c'est vrai. Ah, Chandigarh.
Chandigarh. Ça, c'est la haute cour de Chandigarh.
Chandigarh.
On a. Vous savez qu'il a construit une grande partie des bâtiments administratifs de Chandigarh. Hein. Donc ça, c'est tout. D'ailleurs, ça semble un peu un gymnase, je trouve aussi. Mais c'est la haute cour. Ah, ça.
Ah ben, c'est la tourette.
La tourette. Un magnifique monument qui n'est pas très loin d'ici. Hein. Très, très beau monument, la tourette. C'est un couvent, donc.
De Dominique.
Ouais. superbe lieu, vraiment magnifique. Voilà. Le couvent de la Tourette.
Est-ce que ce béton s'abîme ?
Oui.
C'est pas toujours formidable. La Villa Savoie, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, a posé de gros problèmes. Et d'ailleurs, très tôt. Hein. Très tôt, il y a eu de gros, gros problèmes. Parce que, bon, le Corbusier aussi, il cherchait, quoi. Hein. Et puisqu'il y avait une dimension expérimentale, la Savoie, très vite, il y avait de l'eau à l'intérieur. Parce qu'évidemment, on n'est quand même pas un pays de terrasse. Tu sais. Alors, il n'y a pas tellement de toit.
Il y a une terrasse intérieure.
Ouais. Et quelquefois, il y a vraiment eu de gros problèmes. Alors, et le béton, effectivement, quelquefois, d'ailleurs, vous savez qu'il y a le même problème avec l'architecture de Perret. Hein. Quelquefois, puis les armatures en métal rouillent, donc il faut claquer le béton. Enfin, ça pose des tas de problèmes. Hein. Donc, c'est pas toujours simple. Donc, quelquefois, effectivement, il y a un très très beau travail de velu, mais au niveau de la matière, plus dur. Hein. Ça. Toujours de Corbu.
Ça ressemble à l'hôpital
de Genève. Oui.
C'est quoi un lycée ?
C'est pas un lycée.
Une fac ?
C'est pas une fac.
C'est pas un hôpital.
C'est pas un hôpital, c'est un musée.
Oui.
C'est quel musée ? C'est pas en France. C'est pas en Europe. C'est pas en Afrique.
C'est pas en Inde.
C'est pas en Mexique. C'est pas en Amérique. C'est pas en Chine, mais on n'est pas loin. C'est au Japon. C'est le musée national d'art occidental de Tokyo, hein, qui a été construit par Le Corbusier après la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est une sorte de manière d'imposer le goût occidental au Japon qui avait perdu. Voilà. Alors, cette séance se termina presque, pas tout à fait. Je voudrais en trois diapositives et en cinq minutes qu'on finisse de voir deux, trois petites choses, parce que quand j'ai préparé cet ensemble de séances, j'étais en fait devant un dilemme, c'est-à-dire architecture, que faire hein ? Architecture dans le monde, c'est assez partagé, comme vous le voyez. Hein ? Donc moi j'ai pris le parti plutôt que d'aller un peu dans tous les sens, dans ces cinq séances, de, j'allais dire... bétonner, pour ce qui prend du terme, l'architecture occidentale à partir de l'exemple de la Grèce et de Rome, qui sont pour l'Occident les bases, hein, et ensuite prendre des exemples français pour que on comprenne déjà ce qu'on a sous les yeux. Hein. Faisant ce choix-là, il faut bien faire des choix dans la vie, hein, j'avais bien conscience que il y avait des tas de choses à côté desquelles on passait complètement. Hein, partout dans le monde, à n'importe quelles époques et dans plein de pays. Hein. Par exemple, j'aurais pu vous parler de ça.
Ah, oui.
Oui, c'est la mosquée d'où ? De Djéné, absolument. Hein, hein, on est là, Djéné, au Mali, et il s'agit de la mosquée de Djéné, qui est une mosquée faite en quelle matière, d'ailleurs ?
En terre.
En terre, hein, ce qu'on appelle du banco. Hein. Très, très beau monument, la mosquée de Djéné. J'aurais pu vous parler de ça. Enfin, vous auriez pu vous parler plutôt de ça.
Chine ?
Chine ? Vietnam ? Japon ?
Oui.
Japon. On est à Nikko. Hein. Nikko, c'est l'entrée d'un sanctuaire de Nikko, un sanctuaire assez baroque d'ailleurs. Beaucoup de monuments datent du XVIIIe siècle à Nikko. Voilà, une architecture richissime hein, dont on pourrait parler, évidemment, on pourrait faire rien qu'un atelier.
Beaucoup de bois.
Ce qui veut dire d'ailleurs, c'est une architecture, tout comme l'architecture de Banco de terre qu'on vient de voir à Djéné, hein, que l'on refait plus ou moins en permanence hein, depuis des siècles. Hein. Mais ce qui ne pose pas trop de problèmes, c'est que pour les Japonais, l'idée de la réfection permanente n'est pas un problème. Hein, que voilà, c'est-à-dire qu'une poutre est pourrie, on la remplace, puis voilà. Hein. Alors parce que apparemment, c'est comme ces jardins zen qu'on fait tous les matins, pareil depuis le XIIe siècle. Hein, mais voilà, c'est pas un problème. C'est-à-dire que il n'y a pas du tout la même vision en Extrême-Orient et en Japon de l'authenticité que nous avons nous en Occident. C'est absolument bien très bon opposé. On aurait pu parler de ça. Mexique, effectivement. Alors, ça ressemble à Chichen Itza, mais ce n'est pas Chichen Itza. C'est El Tajín, hein, qui est une autre pyramide de Maya. On aurait pu travailler là-dessus. Hein. On aurait dû travailler là-dessus. C'est laquelle ? Alors, ça ressemble à Sainte-Sophie, sauf que...
Non,
c'est pas Sainte-Sophie.
La mosquée bleue.
Ça pourrait, mais il manque deux minarets. Mais la mosquée bleue, on a six. Hein. C'est du même architecte. Alors, c'est pas la mosquée de Soliman. C'est une mosquée par Sinan, qui, vous savez, le grand architecte du XVIe siècle, hein, de Soliman le Magnifique. Ça, c'est une mosquée qui est en Europe, d'ailleurs, hein, qui est à Edirne. Vous savez, Edirne, c'est la première ville, quand on entre en Turquie, la partie européenne de la Turquie, le premier lieu, c'est Edirne. Et on voit cette merveille, hein, qui est la grande mosquée de Sinan, la mosquée de Selimiyeh, Selimiyeh de Chami, qui est une très très belle chose, qui date du XVIe siècle, une des plus parfaites. Absolument, l'équilibre total, c'est très très bon. On aurait pu parler de ça. Marrant, ça. C'est quoi, ça? C'est ça. C'est ça. La Sumatra, précisément. Hein. Voilà. C'est une maison Batak. Le Batak, c'est un style d'architecture du nord de l'île de Sumatra, en Indonésie. J'allais dire en bois, hein, sur pilotis, avec des tas d'éléments sculptés. Enfin, y aura à dire. Hein. On aurait pu parler de ça aussi. C'est quoi ça? C'est pas New York. C'est Chicago. Hein, qui est peut-être encore plus passionnant que New York, parce qu'à Chicago, vous savez qu'il y a quelques-uns des immeubles. Enfin, le gratte-ciel est plutôt aux États-Unis. Hein, des choses magnifiques. Hein. On aurait pu parler de ça aussi. Hein. Bah, on n'en a pas parlé parce qu'il fallait bien faire un choix. Hein. Mais bon, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de refaire un atelier sur les questions d'architecture en prenant ça. Mais je voulais simplement qu'une petite virgule finale évoquer ça parce que. Dans la vie, il faut faire des choix. Le choix était plutôt, encore une fois, que nous confirmions nos bases en termes d'architecture occidentale et en France, pour ensuite rebondir vers d'autres horizons. Voilà. Et bien, peut-être l'année prochaine. Merci. Ben, bravo. Et puis, bonne